Radio Prague, les informations.
Le chef du Parti des Verts, Martin Bursík, veut attendre la position du président américain avant de ratifier l'accord sur l'implantation du radar. Karl Schwarzenberg rencontrera Hillary Clinton mardi à Washington. Le président slovaque arrive lundi à Prague. À la conférence internationale sur la sécurité qui s'achève à Munich, le président afghan Hamid Karzai a déclaré que l'Afghanistan menacé de terrorisme devrait rester en tête de l'agenda de la politique de sécurité internationale. La ministre tchèque de la Défense, Vlasta Parkanova, a confirmé qu'une identité de vue a régné à cette rencontre vis-à-vis de la nécessité d'un engagement de la communauté internationale dans le renouveau et la protection de l'Afghanistan. Dans son discours prononcé samedi à cette conférence, le vice-président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis continueraient le développement du système de défense antimissile en Europe en tant que contrepoint à la capacité nucléaire croissante de l'Iran, à condition que cette technologie soit fiable et adéquate aux moyens qui seront versés. Pour Martin Bursík, chef du Parti des Verts et vice-premier ministre tchèque, le discours de Joe Biden n'est pas univoque. Il recommande d'attendre quelle sera la position de Barack Obama avant de procéder à la ratification de l'accord sur l'implantation du radar américain sur le sol tchèque. Le chef de la diplomatie, Karel Schwarzenberg, entame dimanche une visite à Washington au cours de laquelle il rencontrera la secrétaire d'État américaine Mme Hillary Clinton. Le projet d'installation du radar américain sera l'un des thèmes des conversations. On spécule sur le fait que la demande d'accueil d'ex-détenus de la prison militaire de Guantanamo puisse être présentée à cette occasion. Le président slovaque Ivan Gašparovič effectuera lundi une visite à Prague. La sécurité énergétique de l'Union européenne, après la récente crise gazière lorsque la Russie a suspendu ses fournitures via l'Ukraine et qui a durement touché la Slovaquie, sera au menu des pourparlers. Ivan Gašparovič rencontrera son homologue Václav Klaus, le premier ministre Mirek Topolánek et les deux chefs du Parlement. Le projet de loi autorisant le vote par correspondance des Tchèques établis hors la République tchèque pour les élections législatives sera débattu lundi par le gouvernement. L'amendement de la loi était soumis par le Sénat à l'initiative de sa commission pour les compatriotes à l'étranger. L'année Bohuslav Martinů, qui mettra à l'honneur ce compositeur marquant du XXe siècle, a été inaugurée ce dimanche par un concert donné à Polička, ville natale du compositeur. Bohuslav Martinů est mort en 1959 à Liestal en Suisse, et c'est donc cette année que tombe le 50e anniversaire de sa mort, et l'année prochaine, 120 ans se seront écoulés depuis sa naissance. En ciel couvert, des chutes de neige locales et des températures variant entre moins 1 et 3 degrés marqueront la météo de lundi, jour de la fête des Apolena, selon le calendrier local. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jarka Gisublova. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme toutes les fins de semaine pour la rubrique culturelle. Aujourd'hui, dans cette rubrique, on parlera photo et on parlera jazz tout à l'heure avec Anne-Claire Veluire. La galerie Langhans à Prague, référence en matière d'exposition photo, propose ces jours-ci deux expositions parallèles. D'un côté, les récentes réalisations d'un photographe américain, Bill Jacobson. De l'autre, une petite rétrospective du travail du photographe tchèque Pavel Diaz. Intitulée « Padesát 50 », elle offre au public justement 50 photos retraçant 50 ans de création de cet artiste qui a fait du photodocumentaire le travail d'une vie. Au micro de mon collègue de la rédaction anglaise, Ian Willoughby, il a évoqué son travail avant de se remémorer les pays dans lesquels il a pu se rendre.
Ce travail est un travail personnel, c'est de la photographie documentaire personnelle. Je n'ai jamais eu beaucoup d'occasion de voyager, mais j'ai pu me rendre dans quelques endroits. J'ai fait l'Inde, des endroits en Afrique du Nord, j'ai voyagé en Europe. Mon nom de famille a attiré l'attention en Espagne, donc j'y suis allé plusieurs fois. et parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur le judaïsme, les camps de concentration et la Shoah, je me suis rendu 4 ou 5 fois en Israël.
Pavel Deas a en effet réalisé un cycle de photographies consacré aux camps de concentration. Aujourd'hui âgé de 70 ans, ce besoin de capter ces lieux de l'horreur et de la barbarie du XXe siècle trouve ses racines dans l'histoire douloureuse de sa famille. Pavel Deas, toujours au micro d'Ian Willoughby.
To bylo proto, protože můj dědeček, který mi suploval voce, přežil.
Mon grand-père, qui m'a servi de père, a survécu au camp et est revenu vivant de Buchenwald. Il en parlait beaucoup. J'ai commencé à travailler sur le sujet et j'ai beaucoup voyagé pour visiter ces anciens camps. De 1960 ou 1961 à 1995, j'ai assisté à toutes les commémorations. C'est comme cela qu'est né le cycle « Le torse de l'Holocauste ». Mais j'ai eu des problèmes. Bien que les communistes se soient proclamés antifascistes, ils ne voulaient pas attirer l'attention sur les camps, car cela aurait pu rappeler aux gens l'existence des goulags.
Mais Pavel Deas n'a pas uniquement capturé Auschwitz et Treblinka. L'exposition de la galerie Langhans montre également ses photos de Paris en 1968, le monde des chevaux et des courses, un cycle qu'il a particulièrement développé et qui lui a permis de voyager même sous le communisme. Une place toute particulière, à part, dans l'espace de la galerie, a été réservée aux photos de Pavel Deas lors des événements historiques qui ont marqué l'histoire tchécoslovaque de la seconde moitié du XXe siècle. 1968 et l'occupation soviétique, 1969 et l'immolation de Jan Palach, 1989 enfin, et la liberté retrouvée. Une des photos les plus frappantes est la photo aérienne montrant la longue file de Tchèques venus rendre un dernier hommage à Jan Palach, une file allant de la place de la Vieille Ville à l'Université Charles, où sa dépouille avait été installée. Pavel Deas.
Je me souviens très bien, j'étais à une réunion de photographes au restaurant Marnes, près de la Vltava. C'est là qu'on a appris ce qui s'était passé. Nous avons décidé de manifester, nous aussi, et de publier une déclaration. Nous l'avons apportée au président du comité de coordination, qui n'était autre que le poète Jaroslav Seifert, qui a plus tard reçu le prix Nobel de littérature. Jan Palach a fait la chose la plus tragique qu'il pouvait faire. C'était le signe d'un désespoir et d'une déception terrible vis-à-vis de ce qui se passait dans le pays et de ce que nous acceptions alors sans protester.
On s'arrête un moment, surpris, devant une photographie montrant les tanks à Prague en août 68 et les Pragois qui protestent. À côté du tank, un homme, le visage dissimulé par son objectif. C'est Józef Kurdelka, le photographe emblématique des 7 journées les plus importantes de l'invasion. Tout comme Kurdelka, Pavel Deas s'inscrit dans la veine du photodocumentaire typique pour des agences comme Magnum. L'exposition Pavel Deas à la galerie Langhans, c'est jusqu'au 1er mars. Et après la photo, on passe à la musique. Un batteur de légende, le bassiste de jazz le plus en vogue actuellement et un guitariste virtuose qui monte. Le Luzerna Music Bar a accueilli le 4 février dernier un trio exceptionnel avec respectivement l'américain Steve Gadd, le camerounais Richard Bonnat et le français Sylvain Luc. Les deux francophones du trio ont accepté de répondre aux questions d'un Claire Veluire à la fin du concert.
Petite introduction biographique pour ce trio inédit. Steve Gadd, batteur de légende aujourd'hui, a joué avec les plus grands, dont Paul Simon, Eric Clapton, Michel Petrucciani, Paul McCartney et James Brown. Richard Bonnat est né au Cameroun dans une famille de musiciens. Il fait de la guitare, du bal à fond, jusqu'à ce qu'il découvre Jaco Pastorius. Il se met alors à la basse et compose de nombreuses chansons où il mêle jazz et influence africaine. Enfin, Sylvain Luc est peut-être encore le moins connu de ce trio. Pourtant, il a aussi une carrière bien remplie en accompagnant des artistes de variété comme Georges Moustaki ou Michel Jonas avant de devenir le bassiste de John Galliano. Il a reçu en 2007 son premier Django d'or. Le public de Luzerna avait sans aucun doute conscience de la chance de pouvoir écouter une telle formation, une chance partagée par les protagonistes du concert. La première question, elle est simple, c'est vos impressions sur le concert. Vous, Richard Bonnat, vous êtes un habitué ici, vous êtes presque un Pragois d'adoption. Je vais demander en premier à Sylvain Luc ses impressions.
Mes impressions, c'est que le public est vraiment très très chaud ici. Moi, c'est la première fois que je joue à Prague et je garde un super souvenir, quoi. Ça me donne envie de revenir.
Richard Bonnat, les gens vous connaissent et reviennent tout le temps en concert. Qu'est-ce que ça vous fait?
Ça fait plaisir de revoir les gens qu'on revoit toujours, en fait. Maintenant, ça fait des fois, je vois les gens, j'ai vu 10 fois et tout. Et surtout, ça me fait plaisir qu'ils découvrent, en plus, un musicien d'exception, comme il dit, que c'est la première fois, comme Sylvain, venir jouer à Prague. C'est toujours comme un petit cadeau pour les fans de Prague, quoi. Puis c'est un pays de musique, en fait, quoi. Les gens apprécient vraiment bien la musique ici. Ils ont une telle appréciation de la musique quand on leur présente un projet comme ça, là, ils savent comment l'apprécier à sa juste valeur, quoi. Donc, c'est bien d'être ici.
On sent que le public est musicien, quoi, vraiment. Hein. Ah, c'est un musicien, ils apprécient la moindre note.
Si je me souviens, je suis venu, j'ai joué avec le Symphonique de Prague, avec Joe Zawinul, et une fois je suis venu en concert, j'ai presque vu 30 de symphonique avec lequel 30 mecs qui étaient dans le... Donc en fait, ils viennent souvent, ils sortent beaucoup, ils vont au concert, et c'est bien de voir ça, quoi.
Je vous pose une petite question, on va dire, biographique sur Sylvain Luc. Vous avez commencé avec de la musique classique, ensuite vous avez joué de la basse, vous êtes à la guitare, maintenant vous faites un projet avec Richard Bonnat et Steve Gadd. Comment vous en êtes arrivé là?
Oula, c'est la suite logique quand on est musicien et qu'on évolue logiquement. La chance qu'on a quand on est musicien, c'est de faire des rencontres. Et j'avais rencontré Richard il y a quelques années et on s'était un petit peu perdu de vue, quoi, parce que Richard a fait la carrière qu'on connaît aux États-Unis. Et c'était un tel bonheur, par exemple, de se retrouver. Ça aussi, ça fait partie des choses de la vie de musicien. On peut se perdre comme ça un petit peu de vue. Et puis là, c'est un vrai bonheur, parce que c'est un tel musicien. Partager de la musique avec lui, c'est une merveille.
Et pour un ex-bassiste, de jouer avec un bassiste comme Richard Bonnat, ça fait quoi?
C'est toujours un bassiste, un ex-bassiste. On n'est jamais ex-bassiste. Non, c'est vraiment, je dois te dire, je joue un peu de la guitare. And this is a great musician, man. Et il joue toujours de la basse, quoi. Il est ex-bassiste et actuel bassiste et futur bassiste, même.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Richard, c'est pareil, il peut jouer d'autres instruments, il peut jouer des percussions. Il y a un moment où, quand on a la chance d'être habité par la musique, tout instrument devient musical, quoi, voilà. Donc, alors, c'est un bassiste, mais c'est un guitariste, un percussionniste, voilà, c'est quelqu'un qui est musicien. Il a de la musique en lui, partout.
On a un esprit musicien. Même simplement taper des pieds, quoi, le truc, c'est comme une peinture, quoi. On prend une brosse et puis on peint, quoi, et puis on se laisse aller, quoi.
Une question avec Steve Gadd. La relation entre les bassistes et la batterie est extrêmement importante. Steve Gadd, c'est un batteur de légende et un peu fou. Comment ça se passe avec lui?
Ça se passe bien. Steve, c'est quand même une légende de cet instrument. C'est vraiment le batteur moderne, quoi, de notre époque aussi, ou de l'époque des gens, des musiciens avant nous. Hein. Comme je l'ai dit sur scène tout à l'heure, il porte quand même derrière lui aisément au moins 40 ans de bonne carrière professionnelle derrière les fûts, quoi. Et rien que ça, c'est voilà, quoi. Son nom parle et son ce qu'il a bâti derrière lui parle de pour lui, quoi. Donc ouais, c'est bien de jouer avec lui, et c'est surtout gratifiant pour nous, parce qu'on est quand même de jeunes musiciens à côté d'un type comme Steve Gadd, quoi. C'est gratifiant pour nous et c'est un honneur pour nous de jouer avec un musicien de cette stature, quoi.
Est-ce que je peux vous poser une question sur la nature du projet avec Steve Gadd, Richard Bonnat? Est-ce que vous allez faire des tournées? Est-ce que vous allez faire un album? Je crois pas qu'il y ait encore d'album, moi, peut-être mal informé. Mais...
Pas pour l'instant, mais enfin bon, on sait jamais. Il y aura une projection quelque part, voilà, c'est sûr. Pour l'instant, il n'est pas question encore d'album, mais enfin, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir, quoi. On est sur la route là depuis le 20 janvier. Voilà, et puis la tournée s'arrête le 7 février. Et puis après, on verra. C'est une première prise de contact. Et on prend beaucoup de plaisir. Et comme disait Richard, c'est quand même un honneur quoi pour nous de jouer avec avec Steve. Il nous a beaucoup influencé aussi, hein. On est vraiment typiquement dans la génération qui a été influencée par Steve quoi.
Dans la tournée s'est présentée, on l'a faite, pourquoi pas, peut-être que si l'occasion se présente pour un disque, bon, on le fait. Et si une autre tournée se représente, c'est toujours, nous on est musiciens, hein, on est un peu comme des soldats, quoi. C'est vrai. Allez les gars, regardez-vous, allez hop, on y va.
Soldats qui se marrent bien, vous avez l'air de partager une belle complicité quand vous êtes sur scène.
Il y a beaucoup d'humour, mais c'est très important, ça fait partie de la musique hein, aussi. Hein. Il y a deux cas de figure, c'est soit on prend les choses très au sérieux, n'importe quelle note. Moi, je pars du principe que les notes doivent sourire aussi. Et Richard, il pense exactement la même chose. Donc une note, elle peut faire pleurer, mais elle peut faire rire la seconde d'après, quoi. Et pourquoi s'en priver, quoi.
Il faut avoir ce rapport. On est un peu, les musiciens sont un peu des grands enfants, quoi. Si on peut dire. Il faut garder ce petit esprit enfant toujours avec la musique. La musique est fragile, quoi. La musique, c'est pas le bureau, c'est pas la politique ou un moment, tu sais, ça reste quand même très fragile, quoi. Donc il faut laisser cet envol là un peu, quoi. C'est toujours, il faut laisser un peu il faut la laisser respirer, quoi. Sinon, si ça devient trop comme ça, surtout ce genre de musique. Quand tu joues avec des amis, ça a toujours ou les gens avec lesquels tu t'entends bien, la musique a toujours une autre sonorité, moi je pense, qu'avec les gens que tu ne connais pas ou que, moi c'est vraiment quelque chose de la musique, je joue la musique, comme je vis, quoi. J'ai grandi dans un environnement musical, en fait, fraternel, amical et familial, quoi. Donc, finalement, quand je joue avec quelqu'un, c'est un membre de la famille, quoi, tu vois. Et quand je sens comme un mur, qu'on peut pas embrasser comme un membre de la famille, ça devient difficile pour moi de rentrer dans la musique, quoi, finalement. C'est pour cela que tu vas peut-être voir cet aspect du sourire, ou cet aspect du jeu, ou cet aspect de la joie. Et moi, on me disait toujours, j'ai toujours mon mentor qui était mon grand-père, me disait, la musique, ça doit toujours être fun. C'est toute la définition même de la musique, même pour les gens qui vont écouter la musique. On vient écouter la musique pour se divertir, pour... Et c'est ce que ça doit rester, quoi.
Et ça se transmet au public, hein. Les gens ressentent ça très fort, hein. Justement,
Et c'est ces moments qu'ils se souviennent. Ceux qui ont vu Sylvain pour la première fois aujourd'hui, quand ils rentrent, dans 10, 15 ans, qu'est-ce qui reste comme souvenir? Ah ouais, c'était une super soirée, et tout de suite, le visage s'illumine. Mais c'est ça la musique aussi, quoi.
De Culture sans frontières. Cette semaine, vous avez pu entendre le photographe Pavel Diaz et les jazzmen Richard Bonnat et Sylvain Luc. Retrouvez ces rencontres sur le www.radio.cz. À bientôt, ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Notre guide touristique de cette semaine ne nous emmènera pas dans les régions de la République tchèque. En effet, nous avons choisi de rester dans la capitale, Prague, pour vous présenter une exposition des plus intéressantes qui se tient dans le centre historique de Prague. Elle est intitulée « L'espace, l'aventure des découvertes » et se tient dans un endroit qui est appelé la Piazzetta, un espace situé entre le bâtiment historique du Théâtre National et la nouvelle scène de celui-ci. C'est à l'occasion de l'année internationale de l'astronomie 2009 que cette exposition a été installée et inaugurée le 7 janvier dernier. Prague, en tant que capitale de la République tchèque, qui préside l'Union européenne, a eu l'honneur d'inaugurer aussi, en tant que première, et encore avant son début officiel le 15 janvier, cette année de l'astronomie. L'exposition « L'espace, l'aventure des découvertes » a été inaugurée en présence de la présidente de l'Union astronomique internationale, Catherine Cesarsky, du président de l'Académie des sciences tchèque, Václav Pačes, du directeur du Théâtre national, Ondřej Černý, et d'autres personnalités du monde de la science et de la culture. Sur de grands panneaux dressés sur la Piazzetta, les visiteurs, mais aussi les simples passants, peuvent admirer 48 magnifiques photographies grand format qui représentent des corps célestes aussi bien du système solaire que de lointaines galaxies. Les photographies sont essentiellement les œuvres d'astronomes espagnols et mexicains. Et après la fermeture de l'exposition pragoise, le 31 mars 2009, elles seront présentées à des expositions dans d'autres pays, cela dans le cadre de l'année internationale de l'astronomie. Si vous venez à Prague en ces froides journées d'hiver, nous vous recommandons de visiter cette exposition que nous présente un peu plus en détail le vice-président pour les activités nationales du comité d'organisation tchèque de l'année internationale de l'astronomie, Pavel Suchan.
Au premier lieu, je dirais que le visiteur peut voir de magnifiques photographies. On ne peut que constater que l'espace en tant que tel est magnifique et grâce à sa représentation en grand format, c'est-à-dire 2 mètres sur 2, les photographies vous aspirent vraiment et vous procurent une extraordinaire sensation esthétique, je dirais même artistique. Un second paramètre est aussi des plus importants. Car les photographies sont accompagnées de textes décrivant ce qu'elles représentent. L'exposition est divisée en 4 parties et le visiteur fera en quelque sorte une promenade à travers l'espace connu actuellement. Cela signifie en commençant par le système solaire avec le Soleil et les planètes qui le composent et les comètes. Ensuite, les photos entraînent le visiteur dans l'espace interstellaire, dans les nébuleuses comme Orion par exemple, une sorte de maternité des nouvelles étoiles. Il peut voir comment se présentait notre système solaire il y a 5 milliards d'années. Plus loin, il entrera dans l'espace intergalactique grâce aux photos prises par le télescope Hubble et qui représentent des galaxies qui se trouvent en dehors de notre système solaire. En fin de compte, on peut dire que l'exposition présente tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur notre galaxie et l'espace. En outre, elle se tient pendant l'année du 400e anniversaire de la première utilisation d'un télescope par Galilée et elle nous montre donc tout ce qui était inconnu il y a 400 ans.
Le visiteur de l'exposition « L'espace, l'aventure des découvertes » n'aura pas seulement qu'à admirer les photographies géantes, car elle possède aussi un accompagnement sonore, avec les textes de grands poètes tchèques, comme par exemple ceux de Jan Neruda, et son recueil de poèmes intitulé « Chant cosmique ». D'autres expositions sont organisées en Tchéquie depuis le début de cette année 2009, année internationale de l'astronomie. Par exemple, 16 photographies de l'exposition pragoise, accompagnées de 18 autres photographies prises par les observatoires tchèques, sont exposées à Ostrava, en Moravie du Nord, dans le cadre de la problématique de la pollution lumineuse. Une autre exposition s'intéressant à ce problème intitulée « Pourquoi nous ne voyons plus les étoiles que pouvaient voir nos aïeux » se tient à Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Mais revenons encore à l'exposition pragoise et la provenance des photos exposées, avec Pavel Suchan.
Elles proviennent des endroits les plus divers. Il y en a beaucoup des États-Unis et encore plus d'Amérique latine. On y trouve aussi des photos de l'observatoire du sud de l'Europe, mais dont le télescope se trouve au Chili. Il y a aussi une photographie tchèque du professeur Druckmiller. C'est vraiment très diversifié.
Et Il faut aussi rappeler qu'au mois de mai prochain aura lieu à Prague une grande conférence internationale sur le météorite de Příbram, un des rares corps célestes dont on a réussi à déterminer la provenance, qui est tombé et a été retrouvé dans la région de Příbram, d'où son nom, au sud-ouest de Prague. Diverses manifestations accompagneront cette conférence, comme celle dont nous parle encore une fois Pavel Suchan.
Takže v budově Akademie věd bude od 11. května na 14 dnů.
Le bâtiment de l'Académie des sciences abritera à partir du 11 mai et pendant 15 jours une exposition sur les météorites et celui de Příbram y sera également exposé ainsi que d'autres corps célestes. L'exposition compte offrir aux visiteurs le maximum d'informations sur la recherche dans l'espace, sur la recherche concernant surtout la matière interplanétaire. Il faut aussi mentionner la création du premier musée Kepler à Prague qui sera aménagé dans la maison où a habitué Kepler lors de son séjour de plusieurs années à Prague, donc dans la rue Karlova, au numéro 4. Ce musée sera ouvert le 14 mai prochain.
Si vous venez en Tchéquie cette année, vous aurez vraiment l'embarras du choix en ce qui concerne la recherche spatiale. Que ce soit à Prague ou dans d'autres villes tchèques, les expositions organisées à l'occasion de l'année internationale de l'astronomie seront nombreuses et sur les thèmes les plus divers. Vous pourrez surtout visiter des expositions de photographie, comme par exemple les phénomènes optiques dans l'atmosphère, les dessins de la Lune, les joyeux du ciel nocturne ou les observatoires en Tchéquie. Peut-être aurez-vous envie de contempler vous-même le ciel et les étoiles. Pour cela, inutile d'emporter avec vous un télescope bien encombrant, surtout si vous venez par avion. Vous pourrez en emprunter sur place dans les observatoires, ou bien même en acheter un de très bonne qualité, car le verre tchèque a toujours été de grande renommée, et pas seulement le cristal de Bohême mondialement connu, mais aussi le verre optique. Et c'est ainsi que nous refermons cette semaine le guide touristique de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.